Chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien, salut.
Salut. Toute une surprise ce matin. Hein?
Ben, on le savait un petit peu.
Ouais, mais je vais te dire, elle est lourde, pas à peu près cette neige.
Ah, y a, oui.
Je suis allé pelleter tantôt, là. Ouh. Faites attention à vos dos si vous pelletez.
Oui, il faudrait que tu passes par chez nous à Saint-Bruno. Les arbres ploient. J'ai d'énormes arbres devant la maison. J'espère qu'aucune branche ne va casser.
Apparemment qu'il y a 280 000 clients d'hydro qui n'ont pas de courant.
Oui, c'est pas venu. Bon, plus à Montréal, plus concentré à Montréal et dans la Naudière, mais il y en a quand même ici à Longueuil qui sont touchés. Là. Donc, c'est pas réglé encore.
Espérons que c'est la dernière.
C'est la dernière. As-tu vu 15-16 la semaine prochaine?
Le pire, c'est que j'ai sorti ma décapotable en fin de semaine passée, puis je dois faire installer des pneus neufs de
la misère des riches, toi.
Ah là là.
Moi, je devais faire un peu de route aujourd'hui, mais je pense que je vais laisser faire. Je vais garder ça simple. Comme vous qui nous écoutez, gardez ça simple ce matin. Si vous êtes en mesure de le faire, travailler de la maison, ou en tout cas, n'essayez pas de gagner la course en vous rendant au travail, tout au moins. Budget 2024-2025 à Ottawa, je mettrais même une lettre majuscule, de nouvelles dépenses et ingérence dans plusieurs champs de compétences des provinces.
Oui, c'est quelque chose, hein, ce qu'on voit depuis plusieurs jours maintenant.
Oui, ça se poursuit aujourd'hui.
Habituellement, le budget, je veux dire, c'est le plus grand secret qui est entouré autour de ça, puis il faut que rien sorte avant le dépôt officiel. Mm. Stéphanie Gramont avait un article hier dans la presse, « Faire un striptease quand on est déjà nu », qui résume très bien la situation. Écoute, on n'arrête pas de nous annoncer des affaires. Bon, tu sais, personne ne peut être contre ça. Bon, les déjeuners pour les enfants, puis des mesures pour le logement, puis c'était à coups de milliards comme d'habitude. Alors qu'on est rendu, selon le directeur budgétaire parlementaire du budget, qui voit maintenant le déficit friser les 50 milliards de dollars. Donc, c'est plusieurs, soit près de 7 milliards de plus que Mme Freeland avait déjà prévu. Mais dans tout ça, je pense qu'il y a quand même un certain positionnement politique. On sait que M. Trudeau n'est pas populaire. Sondage après sondage, bien des gens souhaitent son départ. Là, je pense qu'il est en train de mettre la table pour forcer son adversaire conservateur à se prononcer, parce que M. Poilievre, rappelons-le, a fait du logement une question principale de sa plateforme, parce qu'il veut aller chercher le vote des jeunes, puis il dit « je vais vous régler ça, vos problèmes ». On sait bien qu'il ne réglera pas tout à coup de baguette magique, mais il a fait des annonces. Fait que là, M. Trudeau annonce de l'argent pour ça. J'ai hâte de voir, on n'a pas vraiment entendu M. Poilievre réagir jusqu'à maintenant. Il va falloir qu'il réagisse éventuellement. J'ai hâte de voir comment il va réagir. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il est contre tout ça parce que lui-même, il veut tenter de régler le problème du logement, entre autres. Ouais. Mais je veux dire, je ne sais pas ce qui va rester à annoncer le jour du budget, là, mais il ne restera plus grand-chose, honnêtement.
Oui, bien, les mauvaises nouvelles, ça va être au budget.
Ouais. Les mauvaises nouvelles, on est habitué à avoir des déficits avec ce gouvernement-là. Hein. En tout cas, c'est très... Puis tous les commentateurs politiques que j'entends, ils n'ont jamais vu ça, une présentation de la sorte. C'est jour après jour, une nouvelle annonce.
Regarde, aujourd'hui, l'aéroport Montréal-Trudeau, là, on annonce 4 milliards sur les prochaines années.
Le problème, c'est que, puis comme dit Gramont, on n'a pas d'argent dans les coffres pour lancer de nouvelles dépenses. Puis aussi, le gouvernement n'a pas les compétences constitutionnelles pour intervenir dans les plates-bandes des provinces.
Il y a ça aussi, là. Le logement, entre autres.
Le logement, il peut pas faire ce qu'il veut comme il veut. Il dit, ben moi, si les provinces veulent pas travailler avec moi, je vais travailler directement avec les municipalités qui veulent travailler avec moi. Notamment au Québec, ça fonctionne pas comme ça. Donc,
surtout au Québec.
On a entendu des premiers ministres, dont le nôtre, M. Legault, se prononcer, et des ministres du gouvernement Legault, dont je me rappelle plus là, qui s'est prononcé, mais ce sont plusieurs, dire « wow, ça va faire, là ». C'est pas au fédéral à gérer nos logements, à gérer nos garderies, à gérer ci, à gérer ça. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir comment tout ça va se passer.
J'essaie de comprendre pourquoi on pousse la note. Est-ce qu'on veut faire porter l'odieux aux conservateurs qui vraisemblablement pourraient gagner la prochaine élection puis les forcer à couper éventuellement là-dedans? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Je ne sais pas trop.
Moi, je pense que ce Trudeau, bon, un, il commence à être un petit peu désespéré. Il n'est pas fou, là, quand même. Là, il voit les sondages un après l'autre, puis il voit bien que son temps, la fin de son règne approche. Puis je pense qu'en lui-même, il est pas, je sais pas, il dit qu'il va rester pour la prochaine campagne électorale. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il va finir par céder sa place avant pour donner une chance aux libéraux de sauver les meubles? Mais il est en train de positionner son parti, en tout cas, vis-à-vis des conservateurs. Et je pense aussi vis-à-vis des néo-démocrates qui veulent, on sait, beaucoup de programmes sociaux et beaucoup d'argent injecté, puis là, ils annoncent un paquet d'affaires. Mais le problème, c'est que l'argent, nous ne l'avons pas. Et ça va aller sur la carte de crédit, comme on dit, entre guillemets. Puis c'est les générations futures qui vont être prises avec toutes ces
peut-être
dépenses.
Le pari, c'est le vote de gauche, fort probablement. Ah, on va enlever du vote aux conservateurs, non pas aux conservateurs, mais au NPD et peut-être aussi au Bloc, là. Oui.
Absolument. Puis on veut, moi, je suis sûr qu'on veut faire mal au NPD, puis peut-être pas les rayer de la carte, mais les affaiblir beaucoup pour ne plus les avoir dans les pattes. Mais moi, je crois très faiblement que les libéraux vont former le prochain gouvernement. Là.
Donc,
je pense que les carottes sont cuites.
Oui, bien, on verra bien. Là, c'est quand même pas tout de suite. Hausse du taux. Est-ce qu'on en parle? Hausse du taux de la taxe carbone qui ne passe pas non plus. Dans l'Ouest, on est découragé, même dans
partout,
les maritimes
mais
également.
Écoute, même Doug Ford, hier, j'ai vu ça passer, et Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, a affirmé que M. Trudeau ne serait plus premier ministre dans un an et demi, d'ici un an et demi, s'il maintient sa taxe carbone. Ça vient du premier ministre de la plus grande province du pays. La taxe carbone, donc, on se rappellera, elle ne s'applique pas ici au Québec parce que nous avons notre propre système, comme c'est le cas en Colombie-Britannique. Mais partout ailleurs au Canada, il y a une taxe carbone dont le taux est passé de 65 $ la tonne à 80 $ la tonne le 1er avril. Et puis, il y a d'autres hausses à venir. Et ça ne passe vraiment pas, notamment dans l'Ouest. L'Ouest, bon, rappelons qu'il y a eu une mesure spéciale pour les maritimes où on se chauffe surtout au mazout et on a dit, bon, ben on suspend temporairement la taxe carbone sur le chauffage au mazout. Là, l'Ouest voulait la même mesure pour le gaz naturel parce que dans l'Ouest, on se chauffe au gaz. Trudeau dit non, il n'y en aura pas d'autres exceptions. Alors, tout le monde est un peu amaudi par cette taxe-là. Les citoyens sont amaudis, même si 8 sur 10, on affirme qu'ils finissent par obtenir une ristourne plus élevée que ce qu'ils payent en taxe carbone. Parce qu'il faut savoir que le système fait en sorte qu'on renvoie de l'argent aux citoyens. Je comprends pas tout à fait c'est quoi le principe, en quoi ça va baisser notre empreinte carbone, en tout cas. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça passe vraiment pas. Puis ça aussi, je pense que c'est une autre grande mesure que, on le sait, Poilievre martèle ce point-là depuis longtemps, l'axe de taxe, en anglais, éliminons la taxe. Ça aussi, ça va être un grand, grand enjeu de la prochaine campagne électorale parce que ça ne passe tout simplement pas auprès des premiers ministres provinciaux qui ont à gérer ça et aussi auprès des citoyens. Ça a été très mal vendu aux Canadiens et ça fait mal aux libéraux, ça aussi.
Taïga qui lutte pour sa survie maintenant avec cette tempête actuelle. On aurait peut-être besoin d'une motoneige électrique, peut-être.
Oui, oui. Bien, Taïga, rappelons-nous, on fonde beaucoup d'espoir. Ils font des motos marines électriques, des motoneiges électriques. Là, on a pompé pas mal d'argent public là-dedans, à coups de millions. Et puis là, ça va pas très bien. Là, ça chute en bourse. On a licencié pas mal d'employés.
Oui, 70 les dernières coupes.
Oui, je trouve que ça illustre un peu toute la complexité de ce virage électrique. Bon, d'abord, il y a la question, prenons la question de la motoneige. Il faut dire aussi que BRP, avec son skidoo, ça va pas super bien. Ils ont congédié des gens à Valcourt, à l'usine d'assemblage de Valcourt. Avec les hivers qu'on a, je veux dire, des skidoo, c'est rendu que ça coûte cher. Là. Quand tu achètes ça, ça coûte de milliers de dollars, là, des dizaines de milliers de dollars. Cette année, si on prend l'exemple de cet hiver, la saison a été pas mal entre guillemets scrappée. Il n'y en a pas eu de saison. Alors, je pense que pour les années à venir, l'avenir de la motoneige est incertain. Puis aussi, toute la question de l'électrification des transports, bon, on le voit là, avec l'automobile, on va éliminer rouler vert. Donc, je pense aussi que ça va avoir une incidence sur les ventes de véhicules automobiles parce qu'on sait qu'on en vendait ici au Québec beaucoup plus qu'ailleurs, mais que la subvention y était pour quelque chose, hein, parce que dans l'Ontario, par exemple, qui a éliminé la subvention il y a un certain temps, les ventes ont chuté par la suite. Donc, tout laisse à prévoir que ça va être la même chose. Mais en tout cas, ça démontre que le modèle du véhicule électrique n'est pas nécessairement simple à implanter. On regarde du côté de Northvolt, ça n'a rien à voir avec le véhicule, mais c'est les piles. On voit toute la résistance auxquelles la compagnie fait face. On a entendu parler hier, le président est sorti pour faire une mise au point, si on veut, puis mettre l'accent sur le fait que oui, nous devons aller rapidement parce que sinon on va se faire dépasser par d'autres concurrents. Donc on voit que c'est complexe tout ça à mettre en place. Hein. Et pour les entreprises qui démarrent dans ce secteur-là, font face à beaucoup d'enjeux. Puis en tout cas, j'espère que pour Taiga, ça va finir par fonctionner parce que c'est quand même, on a fondé beaucoup d'espoir dans cette entreprise-là qui a été fondée en 2015 puis qui a fait son entrée en bourse en 2021. Mais depuis, on peut pas dire que ça va super bien. Là.
Ouais, non. Donc, on va suivre ça, mais ça regarde pas bien. On parlait de, il y avait un observateur qui disait souvent, et c'est le cas de Taiga, souvent des étudiants qui, bon, c'est un projet d'étudiant ou HEC, souvent quand ce genre de choses-là, arrive, c'est un projet étudiant, puis on le met de l'avant après avoir terminé nos études, ben, souvent c'est difficile parce que, le mentorat est plus difficile, les sources de revenus, il y a beaucoup d'enjeux et c'est difficile pour des jeunes entrepreneurs de maintenir la cadence qu'ils avaient en fin d'études. Donc,
entre un projet scolaire et la réalité de du marché.
C'est une autre affaire.
C'est deux mondes.
Hein. On termine ça avec, on parle de Californie, restauration rapide, le salaire minimum passe à 20$ de l'heure. Je déménage sur le champ.
C'est un petit article qui a paru plutôt cette semaine ou je pense le week-end passé qui a capté mon attention quand j'ai vu ça. C'est une situation qui soulève un paquet d'enjeux. Hein. On peut imaginer que vivre en Californie, à Los Angeles par exemple, c'est pas donné. Le coût de la vie est assez élevé. Puis on apprend donc que le salaire minimum pour les employés de la restauration rapide, là, on parle vraiment de ce secteur-là, passe de 16$ à 20$ l'heure lundi, donc le 1er avril. Ça soulève des enjeux. Bon, dans l'article, on dresse un portrait. On dit que pour la grande majorité des travailleurs de ce secteur, on pourrait penser que c'est des étudiants, mais non, ce sont des femmes et des latino-américaines ou afro-américaines avec un salaire annuel médian de 25 800$, alors que le salaire médian californien est de 43 000$. Donc, on voit que ces gens-là ne vivent pas dans la grande richesse.
Effectivement, oui.
Mais pour les exploitants maintenant, les exploitants de restaurants sont maintenant pris avec soit augmenter leur prix encore une fois et ils ne sont pas nécessairement intéressés de le faire parce qu'ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours des dernières années pour des raisons qu'on connaît bien, ou ils vont être obligés de mettre des gens à pied. Donc, on voit, tu sais, c'est un débat qu'on a ici régulièrement aussi, le salaire minimum, où est le juste équilibre? Mais il y a un paquet d'enjeux secondaires que ça soulève. Et j'étais aussi étonné de lire dans cet article-là. Écoute, le salaire minimum au niveau fédéral aux États-Unis est de 7,25$. Imagine vivre sur 7,25$. Ouais. C'est quelque chose. Hein?
C'est impossible.
C'est impossible.
Donc, travail au noir, on paye en dessous de la table. C'est une économie.
Ça, c'est au niveau
Il y a une économie parallèle.
Oui, absolument. Parce que ça, c'est au niveau fédéral. C'est sûr que ça varie d'un État à l'autre. Mais eux autres, ils poussent. Hein, aux États-Unis, on pousse pour augmenter le salaire minimum fédéral à 17$ l'heure. Alors, on voit que l'enjeu, c'est pas juste ici qu'on l'a, c'est un peu partout. Hein, puis. C'est pas évident.
Oui, il y a tout l'équilibre à trouver. Il y a toutes ces multinationales aussi qui ont fait leur richesse sur le dos de travailleurs sous-payés, d'adolescents et d'adolescentes également. Il y a tout ça là, à considérer, puis il faut faire très attention au moins bien nantis, puis à nos jeunes également.
Absolument.
Donc, il faut le considérer, puis il y a un prix à payer pour ça, il y a un prix social aussi.
Oui, et on sait qu'aux États-Unis, c'est un pays de grandes inégalités et on voit tout ce que ça comporte comme problèmes sociaux.
Oui, tout à fait, on l'a sous les yeux. Hey, passe une belle journée, on se reparle la semaine prochaine.
C'est beau, salut, bonne semaine.